Bien, alors bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière conférence organisée par la librairie Jean Calvin dans le cadre de son cycle de conférences 2017 consacré aux protestants à l'œuvre. Et nous avons abordé au cours de ce cycle ici à Alès, mais pas seulement à Alès, à Cholet aussi, à Aix-en-Provence, à Paris, nous avons tenté de décliner ce thème sous différentes variations au travers de différentes approches dans le cadre de l'évolution historique du protestantisme du XVIe siècle à nos jours. On a essayé de voir notamment comment la question des œuvres était abordée dans la prédication protestante au XVIIIe siècle, comment ces œuvres s'étaient manifestées, thème bien plus classique, par exemple au XIXe siècle, avec le travail des Bost notamment. Et ce soir, nous vous proposons de conclure donc l'ensemble de ce cycle, non pas par une conférence d'histoire, donc on va détourner nos regards du passé, même si Olivier Abel nous en parlera quand même un peu, puisque nous avons affaire à deux penseurs qui se sont inscrits dans la seconde moitié du XXe siècle et qui, pour les deux, nous ont quittés. Mais nous avons souhaité nous inscrire cette fois dans le présent et dans l'avenir en vous proposant une conférence de philosophie, un parcours croisé, un regard croisé entre deux grands penseurs de la seconde moitié du XXe siècle, l'un d'origine protestante que vous connaissez bien puisque son actualité est revenue sur le devant de la scène avec l'élection du président Emmanuel Macron, Paul Ricoeur, un des grands penseurs protestants de la seconde moitié du XXe siècle, il a passé toute une partie de sa jeunesse dans la ville de Rennes. Et un autre grand penseur, cette fois d'origine juive, Emmanuel Lévinas, tous deux ont été des penseurs importants. Pour Paul Ricoeur, c'est un penseur en tension, qui essaye de combiner parfois ce qui est presque incombinable, presque complètement dissociable et voire paradoxal, voire opposé. Paul Ricoeur va s'efforcer toute son existence d'associer justement ce qui paraît opposé. Et en tout cas, les deux vont réfléchir énormément aux questions d'éthique. Paul Ricoeur va tenter de combiner l'éthique et la morale, ce qui ne sera peut-être pas la position de Lévinas, mais on va le voir tout de suite. Et je vous propose donc d'aborder cette conférence sous ce regard croisé entre Emmanuel Lévinas et Paul Ricoeur. Je suis très heureux ce soir de recevoir Olivier Abel, qui est professeur de philosophie à l'Institut protestant de théologie. Il enseigne aujourd'hui à Montpellier depuis plusieurs années. Et donc c'est pour nous une grande joie et beaucoup de reconnaissance que nous le recevons ici pour nous présenter ce thème. Je rappelle que Olivier Abel était un élève de Paul Ricoeur et donc il connaît parfaitement bien ce sujet. Il a consacré plusieurs ouvrages à Paul Ricoeur, dont celui-ci, La promesse et la règle, qui aborde la question de Ricoeur et de son rapport aux politiques et à la société. On en parlera peut-être, mais il a aussi abordé Ricoeur dans des regards croisés. Je pense notamment à cet ouvrage consacré à Ricoeur, Élie Carbonnier et Pierre Chenu, un des grands penseurs du protestantisme de la seconde moitié du XXe siècle. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour une cinquantaine de minutes de présentation environ, et puis après on pourra avoir un échange pendant une vingtaine de minutes ou plus, si vous le souhaitez.
Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette invitation. Je suis très, très heureux d'être à Alès. C'est vrai que maintenant que je suis à Nîmes, je découvre peu à peu la région. J'ai été pendant trop longtemps à Paris. J'ai été 30 ans à Paris, à la faculté protestante de Paris. Et c'est vrai que j'ai été l'élève de Ricoeur. Et d'abord, j'ai été en classe avec son fils, quand j'étais au scout aussi avec son fils. Donc je le connais depuis très jeune. À 15 ans, j'allais lui poser mes questions. Mes questions sur des textes de lui qui m'ont beaucoup... je lisais, et puis après j'allais parler avec lui dans les années, fin des années 60. Et après, dans les années 70, j'ai fait ma maîtrise avec lui. Après, je suis parti, j'ai enseigné en Turquie, ça, mais j'ai continué, j'ai fait mon doctorat avec lui. Et quand je suis revenu à Paris, on n'entend pas, un peu plus près, un peu plus fort. Et quand je suis revenu à Paris, donc à ce moment-là, on est devenu très proche et je l'ai accompagné, je peux dire, on s'est accompagné mutuellement de conversations. C'était quelqu'un qui vivait de conversations, de lecture, mais aussi de conversations. Et Lévinas, je le connais bien parce que, je l'ai bien connu, parce que quand Ricoeur nous laissait toutes les années 70, il était professeur à Chicago pendant 3-4 mois et de l'hiver, et il nous laissait avec Lévinas, le séminaire de phénoménologie des archives UCERL était partagé en deux, la première moitié de l'année avec Ricoeur et la deuxième moitié de l'année enfin, universitaire avec Lévinas. Donc j'étais à cette double école. Ce qui est intéressant, et j'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que c'est une école, et j'avais été élève à Montpellier avec Michel Henry, qui est un autre troisième grand philosophe de l'école de la phénoménologie, et donc j'ai été à cette école de la phénoménologie française, dont Ricoeur et Lévinas, conjointement, ont été, je dirais, des initiateurs vraiment importants. Ils ont été les premiers traducteurs de Husserl, Lévinas le premier, tout de suite après Husserl, le fondateur de la phénoménologie, Edmond Husserl, était venu à Paris en, je crois, 35, faire des leçons à la Sorbonne, qui ont été publiées sous le titre de « Méditations cartésiennes ». Et Lévinas a traduit les « Méditations cartésiennes », cette première traduction de Husserl. Et Ricoeur, pendant la guerre, ils étaient tous les deux, ont été pendant 5 ans prisonniers de guerre, que tous les deux étaient officiers, c'est ça qui a éviter à Lévinas le camp de concentration et d'extermination. Donc il a eu cette chance, en quelque sorte. Il venait de Lituanie, puis il a fait ses études de philosophie. Il n'avait pas pu passer l'agrégation de philosophie. Ça, c'était après... Non, c'était avant la guerre. Qu'est-ce que je raconte, là? À quel moment je m'embrouille, là, dans ma biographie de Lévinas, que je croyais connaître. Et je sais qu'il y a un moment où il n'a pas pu passer l'agrégation parce que ça veut dire qu'il aurait été prisonnier plus tard. Là, je m'embrouille complètement. Il y a peut-être dans la salle des gens qui connaissent mieux la biographie de Lévinas. Il y a deux données qui se choquent et qui sont contradictoires. Parce que vous savez que les Juifs ont été, par les lois de Vichy, les Juifs ont été interdits de concours et donc ils étaient interdits d'agrégation. Ce qui a fait que Lévinas n'a jamais eu d'agrégation de philosophie. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est contradictoire avec le fait qu'il aurait été captif pendant les 5 années, tout de suite, qu'il aurait été prisonnier comme Ricoeur dès 39. Je ne sais pas comment ça se goupille, tout ça. Je me trompe, peut-être. En tout cas, Ricoeur, pendant sa captivité, avait caché sous son matelas un livre de Husserl. Husserl était lui aussi un auteur juif, et Husserl était un auteur interdit, on va dire. Et donc il a gardé ce livre. Et dans la marge du livre, Ricoeur a traduit, c'était les idées directrices pour une phénoménologie, que Ricoeur a traduit dans la marge. Donc c'est une des archives que l'on a au fond Ricoeur, ce livre avec les traductions, ce livre qui est clandestin, avec la traduction cachée. Donc voilà, en tout cas, ce sont deux grands introducteurs de la phénoménologie qui ont créé cette école de phénoménologie, dont sont sortis Jacques Derrida, Jean-Luc Marion, enfin beaucoup d'autres. Enfin, mais la phénoménologie, c'est aussi Merleau-Ponty, c'est aussi Sartre, etc. Mais c'est Lévinas et Ricoeur sont ceux qui ont vraiment initié les traductions de Husserl. Je voulais évoquer une anecdote importante pour écarter quelque chose qui est, à mon avis, très très fort, qui pèse beaucoup sur le dialogue entre Lévinas et Ricoeur. Je vous dirai tout à l'heure les proximités entre les auteurs, aussi leurs différences. Mais quelque chose qui pèse beaucoup sur les deux auteurs, c'est le fait que ils ont peu à peu incarné dans l'opinion publique française de la fin du XXe siècle un grand intellectuel chrétien et un grand intellectuel juif, et donc éventuellement, sur certaines questions, le conflit entre le christianisme et le judaïsme. Ça a été mis en scène ainsi par un grand penseur français qui s'appelle Alain Badiou, qui est connu, et qui a dit « tout le mal qu'ils peuvent se faire l'un à l'autre, c'est bon pour nous ». Je ne sais pas qui c'est ce « nous ». Il voulait absolument que les deux versions de l'idéologie, il appelait ça l'idéologie de l'humanisme français, s'entre-détruisent. Il y a deux versions, une version chrétienne et une version juive, et qu'elles s'entre-détruisent de manière à nettoyer le terrain pour qu'enfin l'humanisme cède la place à une nouvelle philosophie, qui est bien sûr la philosophie d'Alain Badiou. Je dis ça exprès parce que cette dimension extrêmement polémique que propose Badiou, que voit Badiou, il s'appuie sur le fait qu'il y a eu des élèves des uns et des autres qui ont vraiment eu une conception extrêmement polémique de leur rapport, et à mon avis excessivement polémique. Lévinas et Ricoeur étaient d'abord des amis. Je pourrais citer le nombre de phrases qui expriment leur amitié et leur proximité humaine. Quand ils étaient quand Ricoeur était à Strasbourg, il était très proche de Neher, André Neher. Neher, en quelque sorte, a appris à Ricoeur un certain nombre de choses que Ricoeur a tout de suite transcrit dans le dialogue œcuménique entre le christianisme et le judaïsme, et notamment une critique de l'usage chrétien de la notion de pharisien. Parce que justement, pour Neher, les pharisiens, c'était des gens extrêmement respectables. Il ne faut pas prendre le pharisaïsme, justement, traiter les pharisiens de pharisiens, au sens du pharisaïsme tel qu'on l'entend dans le lieu commun que c'est devenu, des gens purement attachés à la loi, dans un sens un peu étroit, etc. Donc, Ricoeur a très vite capté cette sensibilité juive à ce genre d'accusation, je dirais, d'enfermement. Et son dialogue avec Lévinas le montre. Un petit peu plus tard, je dirais aussi, pour parler des proximités, c'est que lorsque Ricoeur de Strasbourg il est venu à la Sorbonne, c'est là qu'il a eu Derrida comme assistant et quelques autres, et quand il est parti à Nanterre, quand la Sorbonne a créé une université, la première université, je dirais, hors des murs de la Sorbonne, qui était Nanterre, où Ricoeur, qui était professeur à la Sorbonne, a accepté de partir. C'était très courageux d'aller dans la boue de Nanterre, accepter de faire la philosophie devant des amphithéâtres beaucoup plus grands et beaucoup moins équipés, beaucoup moins prestigieux. Il a essayé de constituer une équipe à Nanterre, et il a tout de suite invité un grand phénoménologue et philosophe catholique qui s'appelait Duméry, Henri Duméry, je crois, et puis Lévinas. Et donc Lévinas est venu, Ricoeur l'a appelé à venir. Il n'avait pas l'agrégation, il n'avait pas les titres, mais justement, Ricoeur l'a appelé, il disait « Lévinas, le plus grand philosophe contemporain pour moi », et donc il l'a fait venir à Nanterre. Donc oui, pour vous montrer l'importance de leur lien. Malheureusement, cette école de phénoménologie que Ricoeur cherchait à fonder... Phénoménologie, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la phénoménologie, d'accord ? On prend ça comme un mot un peu nébuleux, tant pis. C'est une école de description le plus neutre possible de ce qui nous apparaît, hein, de ce qui nous arrive. D'une certaine manière, nous allons faire de la phénoménologie. La philosophie française a été très marquée par ça. Mais ce n'était pas seulement la phénoménologie qui l'intéressait, c'était aussi l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation des textes. Et justement, Ricoeur était en train de créer une école de phénoménologie en France. Il y avait une école en Allemagne, mais il voulait... inscrire cette école d'herméneutique, d'interprétation des textes, et notamment des textes bibliques, mais c'est aussi valable pour Platon, hein, les grands herméneutes allemands, ils travaillaient autant sur l'Évangile que sur Platon. C'est l'avantage de l'université allemande, où les choses ne sont pas séparées, avec d'un côté la théologie et de l'autre la philosophie, ce qui fait qu'en France, les philosophes ne connaissent rien à la théologie et que les théologiens ne connaissent pas grand-chose à la philosophie, il faut le dire. C'est malheureux parce que c'est un peu... une lobotomie, les gens ne comprennent rien, la moitié des choses leur échappent, alors que historiquement c'était tellement lié, c'était tellement proche, les questions étaient tellement proches. Donc l'école d'herméneutique, je vais m'embrouiller dans mon propos, l'école d'herméneutique, avec le côté, je dirais, biblique chez Ricoeur, mais le côté talmudique chez Lévinas, qui a écrit beaucoup de lectures talmudiques, hein, qui a vraiment... vous allez voir pourquoi, beaucoup introduit massivement cette culture, la tradition juive, dans le concert de l'herméneutique, mais aussi dans le concert de la philosophie. Donc, voilà en gros les proximités que je voulais tout de suite déployer entre eux. Voilà, alors peut-être un point vraiment très central de ce qu'ils partagent également, c'est l'importance accordée à l'éthique. Vous allez voir un petit peu tout à l'heure chez Lévinas d'où ça vient. Donc c'est pas tout à fait la même conception de l'éthique. C'est ça mon propos ce soir, c'est de comparer l'éthique de Ricoeur et l'éthique de Lévinas. Mais chez tous les deux, l'éthique la question éthique est absolument centrale. Et elle est d'autant plus centrale, je dirais, que c'est une sorte de grande découverte du XXe siècle. Que justement, on a manqué, on a fait des grandes métaphysiques, on a fait des grandes philosophies de l'histoire, comme justement Hegel ou Marx, etc. Mais justement, on a manqué de conscience éthique. Et la preuve, c'est justement que les totalitarismes ont pu se déployer. C'est un manque de philosophie politique, mais c'est aussi un manque de philosophie éthique et de conscience éthique. Et donc, et aussi après la Shoah, après, même déjà après Verdun, on peut, les grands édifices, les grandes constructions rationnelles, ou je dirais même rationalistes, c'était vraiment écroulé. Et il fallait reconstruire à partir de quelque chose qui soit solide, qui permette de résister à ces grandes synthèses prétentieuses et finalement très dangereuses qu'on avait connues au début du XXe siècle. Donc il y a cette l'importance de l'éthique. Autre thème commun, c'est le thème du sujet, l'importance de la subjectivité. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? On ne peut pas liquider le sujet. Alors c'est ça que Badiou appelle l'humanisme. Je ne sais pas si c'est l'humanisme, en tout cas, voilà, les sujets, ça existe, et la subjectivité, voilà. Et puis, un autre thème commun, c'est vraiment l'entrecroisement de la lecture et de l'écriture. Et tous les deux sont... Ce n'est pas seulement le texte biblique, c'est vraiment l'importance du texte et l'importance de la lecture. Alors, peut-être, le premier point qu'il faut mettre, alors, je dirais, à la base de leur proximité et de leur différence, je parlais de Husserl, je parlais des méditations cartésiennes, je vais prendre un petit peu Lévinas maintenant, particulièrement. Dans les méditations cartésiennes, Husserl, il y a une de ces dissertations, de ces méditations qui s'appelle, qui est la cinquième méditation, qui porte sur la question de la genèse de l'intersubjectivité. Donc Husserl part du sujet et donc il décrit ce qui nous arrive, hein, c'est ça la phénoménologie, qu'est-ce que nous vivons élémentairement sans faire de grandes constructions. Et dans ce que nous vivons, il y a l'autre, il y a autrui. Et comment est-ce que autrui apparaît? Et donc Husserl va faire des analyses pour montrer comment dans le sujet, dans le moi, apparaît la possibilité de l'altérité. Et il montre qu'il y a un petit noyau qui va être très vraiment vivement développé par Lévinas, qui est que l'altérité, c'est aussi la temporalité. C'est-à-dire que le temps creuse en moi la possibilité qui est autre que moi-même. D'abord, moi-même, je m'altère, moi-même, je deviens autre que moi-même. Il y a une altération, une altérité en moi parce qu'il y a une altération de moi-même. Et donc, c'est par le temps que l'autre s'introduit en moi. S'il n'y avait pas le temps, s'il n'y avait pas la temporalité, je serais tout le temps seul avec moi-même, et avec un moi-même qui ne changerait pas, qui serait immuable. Il y a peut-être des êtres qui sont immuables, mais ce n'est pas le cas des êtres humains que nous sommes. Et nous changeons, nous ne cessons de changer, degré ou de force, volontiers ou sans le vouloir, voilà, nous changeons. Où il y a des problèmes liés à la promesse, liés au pardon, liés justement au rapport que nous avons au temps. Parce que justement, il y a des changements. Il y a de l'irréversible, il y a de l'irréparable, il y a de l'altération. Donc, c'est sur ce noyau, je dirais, de la genèse d'autrui, par la temporalité du sujet lui-même, que Husserl fait cette genèse. C'est très bref, hein, c'est quelques pages. Mais c'est de cela, alors j'ai pas le livre avec moi parce que j'ai laissé ma maman toute la journée à l'hôpital de Carémo pour les examens et je voyais qu'elle allait s'ennuyer toute la journée. Alors j'ai eu laissé le livre de Lévinas que j'avais mis dans mon sac parce que je suis venu directement. Et c'est un petit livre que je vous recommande qui s'appelle Le temps et l'autre. C'est un tout petit livre. Lévinas, ce qui est extraordinaire avec Lévinas, c'est qu'il écrit des petits livres sans notes en bas de page. Et c'est exactement le contraire de Ricoeur. Ricoeur, c'est des gros livres avec bourré de notes en bas de page. Et Ricoeur est beaucoup plus difficile à lire que Lévinas, il faut le dire. Il est beaucoup plus... Ricoeur, il est beaucoup plus compliqué. Je dirais peut-être que Lévinas est plus difficile. C'est pas du tout pareil. Ricoeur, il est difficile et compliqué, en fait. Lévinas, il est plus simple, mais il est difficile. Alors, le temps et l'autre, oui, je vous dis juste, il développe cette idée, mais il retourne. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir... Il retourne l'idée de Husserl. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a du temps dans le sujet? C'est parce qu'il y a autrui. Si j'étais seul, je ne connaîtrais pas le temps. Il y a du temps... Le temps apparaît pour moi parce que j'en rencontre autrui. C'est autrui qui creuse en moi la possibilité qu'il y ait du temps. Et le temps n'est pas une donnée immédiate de la conscience, contrairement à ce que disait Bergson, d'une certaine manière, pour Lévinas. Le temps est creusé par l'apparition d'autrui et qui nous donne en quelque sorte cette limite. Et d'une certaine manière, vous allez voir plus loin, même le sujet lui-même, contrairement à ce qu'on a en général dans toute la philosophie de Descartes jusqu'à Ego, hein, cogito ergo sum, de Descartes jusqu'à Husserl, on a un sujet constituant, un sujet qui se constitue lui-même. Et non, pas du tout pour Lévinas, c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui en fait est très biblique, c'est que le sujet, il n'est jamais constituant, il est constitué par la rencontre avec autrui, avec autre que soi-même. Et voilà, ça c'est un premier point. Donc, vous voyez, il part de Husserl et il fait bifurquer Husserl vers autre chose. Deuxièmement, Lévinas part de Heidegger, un autre grand disciple de Husserl, à la fois phénoménologue et herméneute. L'idée d'herméneutique, c'est l'idée d'interprétation, qu'il y a des interprétations, que nous interprétons. Nous interprétons les textes, mais déjà nous interprétons notre existence. Tous, nous sommes jetés dans l'existence et nous devons interpréter le fait d'être là. Hein, c'est ça la grande thèse de Heidegger, et ce qui fait qu'on est toujours déjà interprétant. On n'a pas un rapport à l'être autre que interprété. Mais Heidegger a une conception extrêmement positive de l'être. L'être, même d'une certaine manière, pour Heidegger, on a oublié être. Qu'est-ce que c'est que être ? Alors, c'est une thèse qu'on rencontre souvent au XXe siècle. Je me rappelle par exemple Gabriel Marcel qui opposait être et avoir, par exemple, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que être ? Et donc, on a oublié l'être. Et tout le travail de la philosophie, d'une philosophie radicale, c'est de nous souvenir de l'être. C'est l'aletheia, c'est de le dévoilement de l'être, de retrouver l'être derrière les étangs. Hein, ces tables sont des étangs, nous sommes des étangs, nous sommes des existants. Et donc il faut retrouver l'être qui est derrière. Mais cette conception de l'être est une conception en fait profondément grecque et on ne peut pas dire platonicienne parce que Heidegger critique Platon pour lui-même déjà avoir oublié l'être au nom des idées. Et donc il faut revenir avant Platon et Heidegger revient à des présocratiques, Héraclite, Parménide, etc., etc. Donc, les racines de la pensée de Heidegger sont des racines grecques. Et c'est très typique de l'Allemagne romantique ou post-romantique pour laquelle la Grèce, vous rappelez Hölderlin, etc., la Grèce, c'est le modèle. Et les Allemands, la culture allemande, c'est prétendu être la continuation directe de la culture, la grande culture grecque. C'est très important pour comprendre la culture allemande. Alors que Lévinas, justement, et donc le mot qui dit la théorie de l'être, c'est ontologie. L'ontologie, c'est la philosophie de l'être. Hein, bon. Eh bien, justement, Lévinas va rompre avec cette ontologie. Hein, il a des phrases extrêmement sévères avec l'ontologie. En fait, je cherchais, il y avait des passages que j'avais cochés. Mais... par exemple, le présent, je vous lis, hein, d'accord, que vous rencontriez un tout petit peu les textes, comme ça. Le présent est assujetti à l'être, il lui est asservi. Le moi retourne fatalement à soi. Soi, c'est l'être. Hein. Il peut s'oublier dans le sommeil, mais il y aura un réveil. Dans la tension et la fatigue du commencement, perle la sueur froide de l'irrémissibilité de l'existence. L'être assumé est une charge. Par là, ce qu'on appelle le tragique d'être est saisi dans son origine même. Il n'est pas simplement... Donc, ce qui est tragique, c'est d'être. Être est déjà tragique, parce que c'est un poids. On est ce qu'on est, on est coincé dans l'être. On porte le poids de l'être, Il dit dans un autre texte, il dit, on a toujours des bagages. On porte toujours tout ce que l'on est. On n'est jamais entièrement léger, enfin, détaché de l'être. Il n'est pas simplement la traduction des malheurs et des déceptions qui nous attendent et qui nous arrivent au cours de notre existence parce qu'elle est finie. Il est au contraire l'infini de l'existence qui se consomme dans l'instant, la fatalité dans laquelle se fige la liberté comme dans un paysage hivernal où les êtres transis demeurent captifs d'eux-mêmes. Le temps, loin de constituer le tragique, pourra peut-être nous délivrer du tragique. C'est le temps qui vient dans l'être creuser la possibilité d'échapper à l'être. Vous voyez, donc, une conception extrêmement négative de l'être. Et donc, la catégorie centrale chez Lévinas, vous l'avez compris, c'est la catégorie de l'autre. C'est par l'autre que par le temps, le temps me délivre de l'être, et l'autre me délivre de l'être, de ce que je suis. Et donc, la philosophie fondamentale, ce ne sera pas une ontologie, ce sera une éthique. D'ailleurs, Spinoza, lui aussi, avait écrit une éthique. Je ne dis pas que Lévinas n'est pas très proche de Spinoza, hein, même si Spinoza est aussi un auteur juif un peu hétérodoxe, mais on peut faire des rapprochements, mais au fond, ils sont quand même foncièrement différents. Donc là, il y a une source. D'où vient cette source? Pourquoi ce déplacement de l'ontologie vers l'éthique? Pourquoi cette rupture avec Heidegger, alors que Heidegger avait été très important pour le jeune Lévinas? Ça avait été vraiment son maître. Eh bien, je dirais, d'abord, il y a la rencontre de Martin Buber. Martin Buber est un penseur juif très important au premier tiers du XXe siècle, qui a écrit un livre intitulé « Le je et le tu ». Et donc, Buber dit, en gros, la relation fondatrice, c'est « je tue ». Et nous avons, en quelque sorte, majoré le rapport sujet-objet, et nous avons finalement majoré un rapport je-il, l'objet, et projeté le il sur le tu. Le tu n'est qu'un objet. Les autres ne sont que les objets. Et du coup, rétrospectivement, le sujet lui-même, c'est objectivé, c'est penser lui-même comme un objet parmi des objets. Et donc, non, pour Martin Buber, il faut revenir à cette racine dialogique du « je » et du « tu ». Alors ça, c'est un point très important que Lévinas retient de Martin Buber. Et derrière Martin Buber, d'ailleurs, à vrai dire, c'est toute une époque, et on le voit ça aussi très fortement, où des auteurs chrétiens et juifs sont ensemble dans des groupes de réflexion. Karl Barth, le théologien Karl Barth, est très très proche de tout ce petit groupe dans lequel il y a aussi Rosenzweig, dans lequel il y a aussi... pas très loin, Walter Benjamin, etc. Et la théologie de Karl Barth est une théologie, je dirais, avant Lévinas, qui affirme l'altérité et notamment l'asymétrie, c'est-à-dire le rapport asymétrique que nous avons à Dieu. Hein, c'est Dieu qui vient à nous, c'est pas nous qui pouvons aller à Dieu. Et il ouvre un chemin, mais c'est lui le premier qui ouvre le chemin. Il y a une asymétrie radicale, et donc il y a une altérité radicale de Dieu. Et donc la théologie de Karl Barth, quelque part, elle est l'équivalent théologique de la pensée philosophique de Lévinas. Si on cherche un théologien proche de la philosophie de Lévinas, on cherchera Karl Barth. Et si on cherche un philosophe bien contemporain de Karl Barth, ce serait plutôt Lévinas, si vous voulez pour le dire comme ça. Donc, pour vous montrer qu'il y a ce lien. Et puis Rosenzweig, ce que retient Lévinas de Rosenzweig, qui a été très important pour lui, Franz Rosenzweig, qui a écrit un livre étonnant qui s'appelle « L'étoile de la rédemption », qui a été traduit tardivement, il a été traduit il y a une vingtaine d'années aux éditions du Seuil, « L'étoile de la rédemption ». C'est un livre un peu mystique. L'étoile, c'est l'étoile à six pointes, c'est-à-dire en fait les deux triangles inversés, qui correspond à tout un cycle, et d'une certaine manière, qui est la relecture, une relecture juive de Hegel. Et cette relecture juive de Hegel, je dirais très rapidement, ce qu'elle fait, ce qui est très important pour Lévinas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle refuse de penser. Elle pointe vers la totalité, mais elle refuse de prétendre avoir la totalité. La totalité, elle est en Dieu seulement. Et donc ça, c'est un point très important qui est aussi très conforme à toute une théologie protestante qui en quelque sorte détotalise la capacité humaine à faire l'espérance elle-même comme refus de faire nous-mêmes la synthèse. L'espérance, ça veut dire que le dernier mot est à Dieu, le jugement est à Dieu, etc., etc. Donc ça, c'est des points très importants de proximité. Et donc, le refus de l'idée de totalité, et ce refus... À l'époque, il passe un peu inaperçu, parce que Lévinas a écrit un livre intitulé « Totalité et infini ». En gros, l'infini, c'est l'autre, et donc l'infini, c'est positif. Et la totalité, c'est le même, c'est l'être. Et donc, vous voyez bien que tout de suite que c'est pas bien, si je peux dire. Et bon, donc j'oppose, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même ça. Et donc, le mot de totalité était un mot qui était plutôt positif jusque-là. En tout cas, c'est pas seulement Hegel, même le grand adversaire de Hegel, je vous éclabousse avec beaucoup de noms, hein, je suis désolé, mais comme ça vous fait un petit paysage de la philosophie du XXe siècle. Enfin là, je remonte un tout petit peu avant, puisque Hegel c'est le XIXe, c'est même le début du XIXe, et le grand adversaire de Hegel, dans le courant du 19e siècle. C'est un Danois qui s'appelle Kierkegaard et qui a joué un très grand rôle dans le surgissement de la pensée existentialiste. Derrière Buber, par exemple, il y a Kierkegaard. Derrière Rosenzweig aussi, à vrai dire, etc. Bon. Et donc, Kierkegaard est un auteur extrêmement important, un auteur chrétien existentialiste. Enfin, c'est le mot existentialisme est anachronique pour lui, mais fondateur de l'existentialisme. Mais une des choses importantes chez Kierkegaard, c'était que en gros, l'idée, c'est que la rencontre du Christ était une rencontre immédiate qui nous rendait contemporains du Christ par une sorte de... Il n'y avait pas, contrairement à la philosophie allemande qui se pensait comme une formation et une réformation permanente avec une idée de progrès, avec une idée de progression interminable, etc. Non, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de continuation. C'est par des ruptures et c'est par des sauts qualitatifs que l'on passe... que l'on franchit les stades, il y a une sorte de, c'est une philosophie avec des stades différents, mais entre les deux, il y a des abîmes, d'une certaine manière. Et on passe d'un stade à un autre par une sorte de destruction, et par un effondrement, et non pas par une progression. Et donc, une des catégories centrales de Kierkegaard, c'était la catégorie de la décision. On choisit le Christ, on choisit, et la vie en fait se fait par des décisions qui sont des solutions de continuité, c'est-à-dire qui brisent des continuités. Et ces décisions sont des décisions totales. Alors justement, c'était pour expliquer que le mot total, même dans le langage existentialiste, le mot total était un mot positif. Le mot total, c'était justement la rencontre avec Dieu, c'était total. Ça doit tout changer dans ma vie. L'idée qu'il faut que ça change tout. Et en général, les gens trouvaient ça très très bien. La totalité, la philosophie du début du XXe siècle était une philosophie totalitaire. Mais c'était positif, vous voyez, ils le prenaient positivement. Un des seuls que j'ai, à ma connaissance, qui a réagi à ça, c'est le père de... C'est Pierre Maury, le père de Jacques Maury, pasteur... pasteur lui-même, pasteur à Passy, et qui était un grand ami de Karl Barth, un traducteur de Karl Barth, celui qui a introduit la pensée de Karl Barth en France. Et Pierre Maury disait « totalité, je ne suis pas sûr, j'aime pas tellement ce mot totalitaire ». Il y a deux ou trois endroits où il marque une réticence. Alors, le fait que Rosenzweig, lui, ait très vite senti le danger qu'il y avait dans cette philosophie totalitaire, qu'elle soit hegelienne ou qu'elle soit kierkegaardienne, sous ces deux modalités, ça c'est quelque chose de très original que Lévinas a gardé. Alors là, on a un peu les soubassements de la pensée de Lévinas. Je vais vous en décliner rapidement un ou deux thèmes. Et le sujet du coup est un sujet qui apparaît en réponse à autrui, en réponse à l'interpellation d'autrui. Et donc, c'est le visage d'autrui. C'est même pas l'interpellation « Hep », c'est pas celui qui m'appelle. C'est rien que le fait de voir le visage d'autrui. Le visage d'autrui, c'est déjà l'étape de la loi pour Lévinas. C'est déjà le Sinaï. Hein, il dit « c'est le Sinaï ». C'est déjà le visage, c'est le visage d'autrui, c'est un Sinaï. C'est une belle métaphore. Ça veut dire que c'est la loi. Le visage nous dit la loi. Il nous interpelle et il nous convoque et il nous déplace et devant le visage nous ne pouvons dire que me voici, je suis là. C'est pas moi qui dis me voici, je dis me voici en réponse à l'appel d'autrui. Et donc du coup l'appel d'autrui crée en moi une subjectivité qui est une subjectivité passive au sens vulnérable, qui c'est pas une subjectivité, c'est pas le sujet actif, conscient, maître de lui, etc. C'est pas la subjectivité, royale, on va dire, du cogito ergo sum de Descartes. Si vous voulez, c'est un sujet beaucoup plus fragile, c'est un sujet désirant, c'est un sujet qui est en rapport à autrui, qui est structuré par rapport à autrui. Et alors on entre dans l'éthique pleinement avec ce sujet, avec le thème de la responsabilité, qui est un thème majeur chez Lévinas, et que Lévinas, en quelque sorte, va chercher d'ailleurs chez Dostoïevski. Hein, c'est Dostoïevski qui, dans Les Frères Karamazov, j'ai relu récemment le livre, il le dit au moins 5 ou 6 fois dans le livre, sous des figures différentes, on voit apparaître la formule « Nous sommes tous coupables de tout et de tous, devant tous, et moi plus que les autres ». Formule extraordinaire de Dostoïevski. Il faut relire Les Frères Karamazov. Hein, c'est quand même c'est des monuments. C'est des monuments extraordinaires. Et alors, Lévinas reprend ça et Donc c'est une relation, vous voyez bien que c'est une relation non symétrique. C'est devant autrui, je suis responsable. Ce n'est pas lui qui est responsable de moi, c'est moi qui suis responsable de lui. Et je suis responsable, pas seulement de lui, je suis responsable de tous et de tout. Et voilà, et c'est moi. Donc je suis responsable, et donc il m'est arrivé de dire quelque part que je suis responsable des persécutions que je subis. Mais seulement moi. Mes proches ou mon peuple sont déjà les autres, et pour eux je réclame justice. Mais moi, pour moi je ne réclame pas de la justice, je suis responsable. Oui, comme c'est une responsabilité. Ceci dit, on pourrait dire que c'est une responsabilité totale. En tout cas, c'est une responsabilité infinie. La responsabilité est infinie pour Lévinas. Voilà le point central. Et donc, elle va tout parcourir. Elle va jouer sur tous les registres de la vie. C'est pas seulement une responsabilité morale personnelle. C'est aussi une responsabilité politique. Il y a aussi un sens très fort du politique chez Lévinas. Mais à partir de cette catégorie éthique que de l'autre qui fait surgir en moi cette responsabilité. Voilà en gros les grandes lignes de la philosophie de Lévinas et de son éthique, qui a joué un très grand rôle parce que justement elle a retourné l'éthique en repartant d'autrui, hein, et de ce que l'autre autrui me fait. Quand autrui m'arrive, voilà ce que ça me fait. Alors du côté de Ricoeur, je dirais d'abord que par rapport à l'être, Ricoeur a une conception, j'ai pas amené tous les livres de Ricoeur, mais Ricoeur a une conception de l'être extrêmement positive. Et je dirais Ricoeur est un philosophe de l'affirmation, de l'approbation. De l'affirmation de la vie, de l'affirmation de l'être. Pour Ricoeur, l'être, si vous voulez, Lévinas est très proche de Sartre, au sens où pour Lévinas et pour Sartre, l'être, c'est la chose. On est captif, vous vous rappelez, on est captif de l'être. C'est une glue, dit Sartre. On est englué dans l'être. Et donc la seule possibilité d'échapper à l'être, c'est le néant. Pour Sartre, c'est le néant. L'être et le néant, c'est son grand livre. Le néant, c'est ce qui nous permet de... Par le néant, par la néantisation, je m'arrache à la... En créant du néant dans l'être, en détruisant l'être, au sens, en néantisant, je crée un espace de liberté et je m'arrache à cette glue. Tout le problème de Sartre, c'est de sortir de l'être, par l'existence, existence. Je sortir en dehors d'eux, c'est un geste de sortie. À vrai dire, c'est un geste, là encore, ceci dit, pour moi, très protestant. Hein, Sartre, son petit neveu de Albert Schweitzer, etc., ça se sent aussi à des choses, à plein de choses, mais à ça aussi. Mais donc, il faut sortir de l'être. L'important, ce n'est pas l'ontologie, c'est la transcendance, si je puis dire, pour le dire très rapidement. C'est ça qui est très protestant, si vous voulez. Et Ricoeur, donc, bataille très tôt avec Sartre, contre Sartre, en disant, oui, mais il a une conception de l'être qui est déjà... C'est déjà un être-chose. Il a déjà une conception complètement objectivée, choséifiée de l'être. Mais l'être, ce n'est pas ça. L'être, c'est aussi la vie, le mouvement, l'âme, la pensée, etc. Donc, voilà, Ricoeur va redéployer une conception de l'être qui comprend le néant, qui comprend l'altérité, qui comprend le mouvement, qui comprend l'altération, qui comprend le changement, etc. Donc, ça, c'est un choix ontologique fondamental. C'est-à-dire, donc, son éthique sera aussi une ontologie, et non pas juste opposée à l'ontologie. L'ontologie est éthique, et l'éthique est ontologique pour lui. Ça, c'est un premier point de grande différence. Un deuxième point de grande différence, c'est que... Alors là, on rencontre la question du « tu ». C'est que, oui, d'accord, je suis l'otage de l'autre, je suis... Enfin, il reprend toutes les formules classiques de Lévinas, c'est l'autre qui... Mais, d'une certaine manière, l'autre, lui aussi, il dit « je ». Et donc, il faut bien générer à partir de cette... qu'il y ait de l'asymétrie radicale, tout à fait d'accord. Mais comment est-ce qu'on passe de l'asymétrie à la réciprocité ? Il faut bien, dans les circuits de la morale humaine, il faut bien aussi qu'il y ait un peu de réciprocité. Il faut bien aussi qu'il y ait un peu de mutualité. Comment est-ce qu'on va penser l'amitié, si on pense l'amitié, sur un modèle purement asymétrique, dans lequel je donne et je me fiche complètement de ce que l'autre me donne, comme si, ou je reçois et je ne donne rien. Il n'y a pas d'échange, il n'y a plus de... On est seul, finalement, dans l'éthique de Lévinas, on est un peu seul. Ricoeur avait parfois des mots assez drôles, il était toujours très facétieux, et il disait, avec Michel Henry, mon professeur à Montpellier, on ne peut jamais sortir de soi, parce que Michel-Henri, bon, je ne vais pas parler de Michel-Henri, c'est la subjectivité. On est dans le sujet, hein, dans le sujet, qui est un corps, qui est la vie, éventuellement qui est le Christ, d'ailleurs, une conception très mystique du corps comme corps de Christ, de tous nos corps. Hein, bon. Ça, c'est la philosophie de Michel-Henri, c'est un auteur catholique, et c'est un peu catholique, c'est un peu radicalement catholique, donc beaucoup de théologiens catholiques qui n'aiment pas du tout la philosophie de Michel-Henri, mais enfin bon, ça part, c'est une interprétation. Donc, Ricœur disait, avec Michel-Henri, on ne peut jamais sortir de soi, parce qu'on est toujours dans soi. Bon. Lui-même, il nous faisait cours les yeux fermés, toujours. Il faisait 2 heures de cours les yeux fermés, c'était extraordinaire. Et il nous avait donné comme sujet aux examens de licence une phrase de Paul Valéry, la danseuse n'a pas de dehors. C'était un cours sur Karl Marx. Donc il fallait appliquer ça à la philosophie de Karl Marx. C'était un peu particulier. Voilà. On ne sort pas de soi. Donc avec Michel-Henri, excusez-moi, je vais terminer ma boutade. Avec Michel-Henri, on ne sort jamais de soi, mais avec Lévinas, on ne revient jamais à soi. C'est toujours l'autre. Comment est-ce qu'on revient ? Comment est-ce qu'on fait le rapport entre soi et l'autre ? Et donc, voilà, c'est parce que tu m'as dit, c'est parce que quelqu'un m'a dit tu que je peux dire je. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise je, parce que s'il n'y a que des tu, s'il n'y a que des autres, de cette manière, où est-ce que c'est le problème, c'est aussi un problème fondamental de Ricœur, c'est que on est peu à peu, dit-il, dans un monde, et c'est pas du tout un débat avec Lévinas, hein, c'est vraiment la philosophie, ça touche beaucoup l'éthique de Ricœur, c'est qu'on est dans un monde où plus personne ne dit je, au sens fort du terme, c'est-à-dire dans un monde où on se promène. On peut changer, on peut tout changer, on peut tout permuter, et un monde de tourisme, on va dire, mais aussi de nihilisme, de scepticisme. On ne rencontre que des autres. Hein. Mais Ricœur dit, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut soi-même accepter d'être quelqu'un, d'être quelque part, sa finitude. Il faut accepter d'être ce que l'on est pour rencontrer quelqu'un d'autre que soi-même. Donc Ricœur dit, le plus court chemin de soi à soi, c'est bien par autrui que ça passe, donc ça c'est le côté Lévinas, mais aussi, pour rencontrer un autre, il faut qu'il y ait un soi, il faut que le soi existe, il faut bien qu'il soit constitué. Le soi est constitué par l'autre, mais il faut quand même qu'il soit constitué. Alors c'est un débat extrêmement subtil, parce que quelque part, Ricœur est entièrement d'accord avec Lévinas. C'est Lévinas qui n'est pas entièrement d'accord avec Ricœur, si vous voulez. Pour Ricœur, la pensée de Lévinas est un moment, mais il faut qu'il y ait l'autre moment. Et pour Ricœur, le sujet, c'est, il dit « je », le sujet, la subjectivité, elle se répartit sur toutes les personnes du pronom. C'est « je », c'est « tu », c'est « il ». Ça peut aussi être « il », c'est l'autre « autre ». Il n'y a pas que « je » et « tu », il y a aussi un autre « autre ». Je ne sais pas, moi, si je suis en train de conduire une voiture et que je suis tellement attentif à l'autre, que je ne vois pas que l'autre, il doit tenir compte d'un troisième. Il faut que je tienne compte, je prends un exemple très basique, hein, je conduis au volant d'une voiture, je dois tenir compte que l'autre tient compte d'un troisième. Je, tu, il. Hein, sinon, si je prends l'autre uniquement dans son rapport avec moi, je majore le je, tu au détriment de toutes les autres relations que les autres ont avec d'autres, que moi, etc. Donc, pour Ricœur, il faut redistribuer l'éthique sur tous les pronoms personnels, y compris le « nous ». Je vais y revenir parce que c'est un point très important, il y a un « nous ». Alors, l'éthique de Ricœur, je ne vais pas présenter toute la philosophie de Ricœur comme je l'ai fait de celle de Lévinas, ce serait un petit peu long, et je veux venir à un autre sujet qui me semble un autre point de leur rencontre qui est très important, mais je veux quand même déplier un tout petit peu son éthique. Donc son éthique, vous le voyez, elle se répartit sur tous les pronoms, un peu la différence de celle de Lévinas, qui est vraiment l'autre, qui le « tu », qui... et l'éthique de Ricœur, l'éthique de Lévinas, je dirais, elle tombe du ciel, c'est l'autre, c'est le visage, c'est le Sinaï, c'est la loi du Sinaï. L'éthique de Ricœur, c'est une éthique foncièrement pluraliste. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des orientations vers le bon, vers le bien. Ça lui vient de la philosophie d'Aristote. Mais on trouve ça chez Spinoza, par exemple, aussi. C'est tout être, désir, être. Ouais. Une orientation vers l'existence, une approbation d'exister et un désir d'exister. Et ça, c'est le cœur de l'éthique. L'éthique, c'est l'orientation vers le bien, vers le bon. Et c'est un point fondamental. Et ça vient du fond de ma vie, du fond de mon existence. Je désire du bon. Et en désirant du bon, je désire le bon. Je désire une vie bonne, une vie heureuse. On peut discuter de qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, qu'une vie heureuse, justement. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes conceptions de la vie bonne. Peut-être aussi qu'on est un peu formaté par des sociétés qui nous disent voilà ce qu'est la vie bonne, il faut avoir une BMW, il faut avoir, etc. J'en sais rien. Moi. On a des formats de la vie bonne, il faut peut-être changer de format, si vous voulez. Ça, c'est retrouver son propre format de la vie bonne, sa propre forme de vie, on va dire, sa propre forme d'existence, son propre style d'existence. Mais voilà, il faut repartir de soi. Et c'est ça le premier étage. Le premier étage, c'est cette orientation vers la vie bonne qui se fait aussi avec et pour autrui. Alors, c'est ça tout le circuit de l'éthique de Ricoeur, c'est viser à la vie bonne, vous désirez la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Vous voyez comment il déplie les trois pronoms « je, tu, il ». Viser à la vie bonne, je vise à la vie bonne, nous visons, c'est première personne du singulier et du pluriel, avec et pour autrui, je ne suis pas seul, je suis avec d'autres, donc je dois tenir compte que il faut que ma conception de la vie bonne, si je suis avec des amis, si je suis en couple, avec ma femme, et ben il faut composer ma vie bonne avec la vie bonne d'autrui. Et dans des institutions justes, il y a du tiers, il y a d'autres, etc. Ça, c'est le premier étage, l'éthique. Deuxième étage, on peut dire, ou deuxième figure de l'éthique, ça change de nom, on reprend le nom latin, c'est la morale. Et là, c'est moins Aristote, c'est moins Spinoza que Kant. C'est Kant, et là, on est assez proche de Lévinas. La morale, c'est la loi. La morale, c'est la règle. Mais alors, ce qui est différent de Lévinas, c'est que la règle fondamentale, c'est la règle d'or. C'est de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ou de faire à autrui ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Donc il y a toutes sortes de débats de cette règle morale, dont, je dirais, Kant a donné le format le plus abstrait, le plus formel et le plus universel, avec l'impératif catégorique. L'impératif catégorique qui est un impératif universel. C'est de ne pas se justifier par une justification qu'on refuserait aux autres. Je fais une sorte de traduction de l'impératif catégorique. Mais derrière l'impératif catégorique, ça veut dire chez Kant qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il est catégorique, ça ne veut pas dire qu'il est militaire. Ça veut dire qu'il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'impératif de Kant, c'est l'impératif de l'agapé, au sens chrétien, au sens de l'évangile. En fait, c'est une traduction philosophique et sécularisée de l'agapé chrétienne, c'est-à-dire je ne cherche pas à penser les causes, je ne cherche pas à penser les conséquences, ce qu'il va faire. Je suis là, je vois un voyageur tomber à terre, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui il est, je ne m'en occupe pas, je le prends et je l'amène à l'hôtellerie. Et voilà. Hein, on ne s'occupe pas des catégories. Voilà. C'est ça, la Kant. C'est vraiment exactement ça. Donc, voilà, ça, c'est le moment de la morale. Et vous voyez que la morale, à la différence de l'éthique, ne vise pas tellement le bon, elle vise surtout à empêcher le mal. Parce qu'en voulant le bon, on peut faire du mal aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut une règle qui entrave, qui limite, qui crible, qui passe au crible, critique. C'est pour ça que le mot vient de Kant, c'est intéressant. Justement, notre désir de vie bonne doit passer au crible de la règle morale. La règle morale, qui est une règle dont le fondement est la mutualité et la réciprocité, on va dire. Et aussi dans des institutions justes. Mais là, c'est l'autre, c'est par l'autre. C'est le détour par l'autre qui me ramène à moi-même comme n'importe qui. Hein, d'ailleurs, le titre du livre, c'est « Soi-même comme un autre ». C'est pas l'autre comme moi-même, c'est « Soi-même comme un autre ». C'est une phrase... En fait, ça évoque le final du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Hein, « S'aimer soi-même comme n'importe qui, comme n'importe quel autre ». C'est une très très belle. La fin de ce livre est tout à fait magnifique. Enfin, tout le livre est magnifique. Voilà. Et puis, alors, il y a encore une troisième étape. Donc, vous voyez, Aristote, Kant, Ricoeur, c'est vraiment un grand philosophe classique qui traverse toute la philosophie, toutes les traditions, et qui les fait dialoguer. Il les fait dialoguer par-dessus les temps, par-dessus les époques, par-dessus les âges. Et le troisième, en gros, c'est son apport, mais il s'appuie un peu sur le tragique grec, sur la tragédie d'Antigone, il s'appuie sur les textes bibliques, il s'appuie un peu sur Freud et sur Hegel, d'ailleurs. C'est un peu bancal. Et en fait, c'est ce qu'il appelle la sagesse pratique. Donc, la visée éthique, la norme morale, la règle morale, et la sagesse pratique. Troisième étage de l'éthique de Ricoeur, la sagesse pratique. La sagesse pratique, c'est le fait qu'il y a des cas qui sont tragiques et dans lesquels on ne peut pas choisir entre le bien et le mal. On voit bien qu'on ne vise pas le bien, on ne peut même pas empêcher le mal, parce qu'il y a de toute façon, dans les deux cas, il y a du mal. Et simplement, on va chercher le moindre mal. La sagesse pratique, c'est vraiment une sagesse gérée au cas par cas, qui a traversé le tragique et qui cherche juste à, en quelque sorte, à retrouver le sens de la prudence, de ce qui est au plus juste du cas singulier. On ne prétend pas universaliser, on ne cherche pas l'universalité comme Kant, on cherche juste, là, dans ce cas-là, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. C'est pour ça que ce chapitre a joué un très grand rôle dans tous les débats éthiques, que ce soit en médecine, que ce soit dans le droit, dans toutes les activités où il y a des praxis qui nous mettent en lien avec des cas singuliers, si je peux dire, quels qu'ils soient. Donc voilà, ça c'est la sagesse pratique, c'est une sagesse qui sait que là, qu'il peut y avoir des conflits entre plusieurs devoirs, qu'il y a des conflits. Et donc c'est pour ça que je disais que la morale de l'éthique, vous voyez, de Ricoeur, elle est profondément marquée par ce pluralisme. En gros donc, l'orientation vers le bon, la norme, la loi, et puis la sagesse. Alors, vous ne le sentez pas, mais en fait, moi, je suis en train de passer à la Bible, là, à travers ça. Parce que cette partition de l'éthique de Ricoeur, elle correspond au fait, en fait, pour lui, souterrainement, au grand lecteur de textes bibliques qu'il est, à des grands massifs dans le domaine biblique, qui sont ben, justement la Torah, la loi, hein, le Deutéronome, etc. Et puis, y compris la loi commentée par Jésus dans l'Évangile. Mais c'est quand même la loi, hein, parce que tout l'Évangile est déjà dans le Deutéronome. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, etc. Et puis, les prophètes, et bien les prophètes, c'est justement réouvrir la visée du bon, on pourrait dire, foncièrement. C'est le malheur. Mais on voit le malheur parce qu'on voit le bonheur qui va être écrasé par le malheur. Ça touche ça. Et puis le troisième, la sagesse, c'est tous les livres sapientio, et y compris, je dirais, il faut élargir la gamme, parce qu'il y a les récits prophétiques, il y a des textes prophétiques, il y a des textes de loi prescriptifs, il y a des textes sapientio, hein, l'Ecclésiaste, les Proverbes, etc. Bon. Et puis, il y a des hymnes, il y a les psaumes, il y a encore d'autres genres, on va dire. Et puis, il y en a encore d'autres. Il y a les lettres chez Paul, Pierre, Jacques. Dans le texte biblique, il y a beaucoup de genres littéraires. Et c'est là-dessus un petit peu que je voudrais... Je ne sais pas, je suis un peu long, peut-être.
Non, ça va.
Ça va,
il est 7h25.
Ça. 7h25, d'accord. Alors, je vais terminer par un débat qu'ils ont eu tardivement... à l'occasion d'une rencontre aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles sur le thème de la révélation. Les facultés Saint-Louis sont des facultés catholiques à Bruxelles. Et le thème, c'était la révélation. Alors, il y a eu Claude Geffray, ils étaient très nombreux, ceux qui y participaient. Les autres, vous connaissez peut-être pas, le père Olot, un père belge, Ricoeur et Lévinas. Et donc, Ricoeur a fait un éloge de la révélation pluraliste, si je peux dire, en disant il y a plusieurs formes de révélation, parce que autre est la révélation en régime prophétique, autre la révélation en régime prescriptif, autre la révélation en régime sapiential, autre la révélation, etc. Et Lévinas arrive à la séance d'après et dit... J'ai beaucoup lu et beaucoup apprécié la communication de mon ami Paul Ricoeur, mais quand même, je ne suis pas d'accord, parce que quand même, la révélation, elle correspond à un genre éminent dans le texte biblique. Il y a le texte biblique en général, il y a aussi du récit, du narratif, hein, bien sûr, sous différents modes, des chroniques, des mythes fondateurs, des ça, bon. Donc, plusieurs genres bibliques. Mais il y a un genre éminent qui est le genre prescriptif, la Torah. La Torah, c'est au-dessus, c'est à part. Ça, c'est vraiment la révélation de Dieu. Et après, c'est raconté par les hommes. Mais là, c'est là que Dieu nous dit « tu feras ceci, tu ne feras pas ça ». Et c'est autre chose. C'est un genre éminent. Et Ricoeur revient à la séance suivante, et là, le débat se poursuit, jusqu'à un point d'aporie, parce que Ricoeur dit « Non, mais bon, pour moi, c'est fondamental, c'est très important de ne pas justement... voir que chaque genre biblique, chaque genre littéraire qui est dans le texte biblique peut être tour à tour pris comme le genre éminent. Parce qu'il y a des époques où c'est le prophétique la voix de Dieu passe par le prophétique. Il y a d'autres moments où c'est le sapiential. Il y a d'autres moments où c'est l'hymne, la louange, le cantique des cantiques, etc. Bon. Et donc, ils s'opposent là-dessus. Et en fait, ils vont, je dirais pas tomber d'accord, mais ils vont juste revenir à eux-mêmes. C'est la conversation entre Ricoeur et Lévinas, c'est très beau. Ricoeur dit, mais en gros, vous sortez de la Shoah. Et pour vous, je comprends fondamentalement que s'il y avait eu cet interdit du meurtre affirmé comme étant la loi, le testament de Dieu, hein, c'est le titre du livre de Bernard-Henri Lévy, hein, très marqué par Lévinas. J'aime pas beaucoup Bernard-Henri Lévy, mais bon, il faut dire que c'est un fait culturel. Hein. Il a réintroduit Bernard-Henri Lévy, qui était maoïste, comme Badiou, comme beaucoup d'autres. Il a redécouvert justement la Torah et il a redécouvert le testament de Dieu. S'il y avait eu si le testament de Dieu avait été solide, eh bien, il n'y aurait pas eu la Shoah. Voilà. Et on a manqué ça. Et moi, vous, c'est ça que vous avez vécu et je comprends très bien que vous soyez dans ce moment où il faut réaffirmer la Torah. Et Ricoeur dit, mais moi, je viens d'un protestantisme qui a été très marqué par un moralisme extrêmement aigu dans lequel toute la Bible était finalement enfermée dans une conception très un peu rationaliste et un peu moraliste, un peu kantienne comme ça, du devoir, de la morale, etc. Et pour moi, justement, les grandes théologies du XXe siècle m'ont libéré de cela. Et d'ailleurs, Ricoeur, de point de vue-là, c'est une des raisons pour lesquelles il va rompre aussi, enfin, il va s'éloigner de Karl Barth, parce que Karl Barth a une conception beaucoup trop altière de Dieu. Dieu est uniquement le tout autre, uniquement dans l'altérité, uniquement dans la transcendance. C'est un point très important chez Calvin aussi, hein, bien sûr, c'est une grande lecture de Calvin. Mais Ricoeur, de manière non moins calvinienne, va aussi voir Dieu partout. Je dirais le monde est la création de Dieu. Dieu n'a pas voulu être seul, justement. Quand dans la Genèse, il est dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. Dieu a voulu des créatures qui lui résistent, qui soient libres. Et donc, il y a un dialogue. Et pour qu'il y ait un dialogue, il faut bien qu'il y ait un jeu qui existe et qui puisse désobéir. Rien que ça, c'est absolument fondamental. Et donc, cette possibilité de désobéissance, hein, c'est des textes de Ricoeur un texte qui s'appelle « L'image de Dieu et l'épopée humaine », dans lequel Ricoeur va reprendre appui sur les pères grecs hein, pour penser cette théorie de la Genèse, cette lecture de la Genèse et de la possibilité de la liberté. C'est quoi la liberté de l'homme ? Dieu a besoin d'un être qui lui résiste, comme l'homme a besoin d'un être qui lui résiste, qui est la femme, et qui n'est pas un animal qu'il garde. Vous voyez, c'est fondamental. Ça, c'est la lecture que propose John Milton dans son « Paradis perdu ». C'est un texte absolument éblouissant hein, du XVIIe siècle, sur une lecture fantastique de la Genèse. Hein. Milton, je vous recommande la lecture du « Paradis perdu » de Milton. Donc voilà, moi je sors, je termine mon propos. Moi, dit Ricoeur, je sors d'un protestantisme qui s'est peu à peu devenu moraliste, ce qui est très curieux, parce que, et là je vais peut-être vous faire bondir, mais moi je pense que foncièrement dans la Réforme, ce qu'il y a chez Luther, chez Calvin, c'est l'insouci du salut, le total insouci du salut. J'avais une conversation dans le livre que vous mentionnez tout à l'heure, c'était des entretiens pour la télévision, pour France 2, j'avais eu cette conversation avec Jacques Ellul. Et alors, donc, je ne sais pas comment ça vient dans la conversation, je dis, mais alors finalement, le salut, ça ne vous occupe pas tellement. Et mieux, pas du tout. Et ça a été un avertissement pour moi, et j'ai retrouvé des phrases de mon grand-père, instituteur ardéchois, qui, un jour, quand j'avais 8 ans, 9 ans, comme ça, il m'avait fait venir près de lui, sur le plateau ardéchois, il m'avait dit, tu sais, Olivier, moi, je ne peux pas concevoir que le salut ne soit pas universel. Pourquoi est-ce qu'il disait ça ? C'est un propos théologique, tout à fait fondamental. Il ne disait pas ça parce qu'il était inquiet de son salut. Il n'avait aucun souci de son salut. C'est pas qu'il était sûr d'être parmi les élus, c'est que ce n'était pas sa préoccupation. Il était tellement marqué, je dirais, fidèle à la Réforme, que justement la grâce, c'est l'insouciance quant au salut. Et ce qui est très curieux, c'est que le XVIIIe siècle, et ça a traversé tout le protestantisme, c'est Kant et tout le protestantisme libéral, mais c'est aussi Wesley et tout le réveil, tout le protestantisme revivaliste, comme tout le protestantisme libéral, tous les deux partagent cette inquiétude du salut que Max Weber a très bien traduite dans un des fondements du capitalisme. Je ne sais pas s'il a raison, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a une inquiétude du salut qui me semble pas très protestante, en fait, si on est fidèle à la Réforme. Je pense que il y a un insouci de soi qui permet de reporter le souci sur le monde et sur Dieu, et sur le monde et sur les autres. Et c'est ça qui est notre vrai souci, c'est le souci des autres et c'est le souci du monde. Parce que nous sommes insouciants de nous-mêmes. Et Calvin dit, dans l'institution de la religion chrétienne, il faut premièrement se vider de tout souci de soi. Premièrement, se vider de tout souci de soi. C'est un point très important, et c'est très curieux comment le protestantisme, à partir d'un certain moment, a retourné le sablier. Bah, peut-être que, justement, il y a une limite à l'insouci de soi. Il y a un moment où il faut se soucier un peu de soi-même. Mais la grande conversation entre Calvin et l'évêque Sadolé, l'évêque de Genève, l'évêque de Genève dit au peuple de Genève, il écrit une épître en disant, écoutez, c'est très bien la réforme, mais à un moment, il faudra quand même que vous vous occupiez un peu de vos âmes. Quand on pense aux angoisses qu'il y avait à l'époque autour du salut et du salut de l'âme, parce que les corps, de toute façon, ils étaient malheureux, il y avait des maladies, il y avait des douleurs, donc le salut de l'âme, c'était beaucoup plus important. Et donc, quand Sadolé dit ça, il dit quelque chose de super important. Et Calvin fait une réponse, l'épître à Sadolé, qui va être lu par Genève, et qui fait que Genève va rappeler Calvin en disant, écoutez, votre évêque, votre ancien évêque, il a raison, il faut vous soucier de votre âme, mais la meilleure manière de vous soucier de votre âme, c'est de remettre ce souci entre les mains de Dieu. C'est absolument fondamental. Donc voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de conversations avec Ricoeur sur cette question du souci et de l'insouci, et donc cette dimension, je dirais, évangélique de l'insouci de soi face au souci de soi qui est le propre des sages grecs. On voit encore les livres de Michel Foucault qui s'appellent « Le souci de soi ». C'est très important. La sagesse, c'est le souci de soi. Là, il y a une dimension de folie, d'insouci de soi qui est absolument fondamentale, dans la rupture inaugurale de la réforme. Bon, je comprends qu'après, c'est plus compliqué. Il faut vivre, transmettre ça à des enfants. Les enfants ne sont pas forcément insouciants. Enfin, les enfants des pasteurs ne sont pas forcément des pasteurs. Ça se complique après dans l'histoire, bien sûr. Mais c'est ça le point de départ radical. Tout ça pour vous dire que... qu'est-ce que je voulais dire? Je retombe sur mes pattes quand même à la fin de ma camionnette. Non, c'était sur le fait que donc pour Ricoeur, cette dimension morale, ce souci du salut, etc. Il avait d'ailleurs des grands-parents comme moi, d'ailleurs, c'est le même, d'arbistes. Et donc, c'était intime, c'était une question intime. Pour lui, ça a été une délivrance, d'être délivré, de relire, de retrouver ces textes, de retrouver cet insouci de soi et de trouver dans le texte biblique. Il y a des textes bibliques qui parlent du souci de soi, mais il y en a d'autres qui parlent d'autre chose. Et donc, avoir dans le texte biblique autant de choses, excusez-moi, ce n'est pas la Bible, hein, ce n'est que soi-même comme un autre, je n'ai pas la Bible sous la main, mais vous voyez, dans tous ces... Le texte biblique, Ricoeur a écrit un texte intitulé « Le soi au miroir des Écritures ». Et justement, au miroir des Écritures, le soi, il change. Le soi lecteur de la Genèse n'est pas le soi lecteur du Deutéronome, qui n'est pas le soi lecteur des prophètes, qui n'est pas le soi lecteur du Cantique des Cantiques. Voilà. Donc, Ricoeur a écrit un livre qui s'appelle « Penser la Bible », dans lequel on voit un petit peu, justement, ces différents registres. Eh bien, justement, il n'y a pas que la morale, il n'y a pas que le prescriptif, il y a le sujet se met sous plusieurs régimes. Voilà, je dirais, la vraie conversation. Mais Ricoeur le dit, moi, c'est uniquement parce que j'ai souffert de l'excès de moralisme dans mon protestantisme enfantin, et vous avez souffert d'autre chose. Et donc, voilà, chacun vient dans la vie avec le petit coin de naissance dont il est issu. Juste une petite parole pour terminer. Ricoeur disait, de son protestantisme, c'est juste un hasard de naissance. Parce qu'on lui disait, oui, mais si vous étiez né en Chine, vous ne seriez pas protestant, vous ne seriez pas chrétien. Il dit, ben oui, bien sûr, mais ce ne serait pas moi. Il faut avoir un soi pour rencontrer un autre que soi. Moi, voilà, j'ai rendu. Et il dit, et c'est un peu plus compliqué que ça, il dit, c'est un hasard transformé en destin par un choix continu. Je n'ai cessé, jour après jour, de dire, mais oui, je suis chrétien. Et donc, il faut, c'est un choix continu, une approbation, hein, une affirmation continuelle. Et il dit, je suis de naissance, on est quelque chose par naissance ou par hospitalité. Parce qu'on peut aussi s'exiler, on peut aussi quitter. On peut quitter sa langue maternelle, on peut quitter sa religion maternelle. Mais on est reçu, et quelque part, on le devient. On devient ça suppose d'accepter qu'il y en a d'autres qui sont nés ailleurs ou qui se sont exilés ailleurs et qui sont dans d'autres langues ou dans d'autres confessions. Donc voilà, jusqu'au bout, ce pluralisme foncier de Ricoeur qu'il ne faut pas entendre comme un relativisme du tout. Il faut avoir un soi, il faut être enraciné. pour rencontrer un autre que soi. Mais je pense que le principal autre que Ricœur a rencontré tout au long de son itinéraire philosophique, c'est justement Lévinas. Merci.
Bien, merci beaucoup pour cet exposé très clair, pour cet exposé foisonnant de la pensée de Lévinas et de Ricœur. Je suppose que ça éveille beaucoup d'interrogations, de remarques aussi, peut-être, au sujet de ces parcours croisés de Lévinas et de Ricœur, qui partent de deux points quand même radicalement différents, hein, puisqu'il y a un rejet de l'être, comme vous l'avez dit, chez Lévinas, et pas du tout chez Ricœur. Donc, deux bases philosophiques qui sont malgré tout différentes, et qui, pourtant, les ont amenés à se côtoyer, à dialoguer. Avec votre conclusion, j'ai envie de dire quand même que leur histoire à tous deux aussi oriente radicalement, malgré tout, leur pensée. Hein. Est-ce que, avant peut-être de passer aux questions du public, hein, est-ce que la dimension de la faute est introduite chez Lévinas et chez Ricœur, notamment en rapport avec... peut-être, évidemment, pour Lévinas, le drame absolu qu'est la Shoah, mais qui pose aussi problème et qui pose question à Ricœur, évidemment. Mais la faute aussi, peut-être, avec cette faute moralisante, hyper moralisante, hein, dans le passé de Ricœur. Ouais. Comment l'un et l'autre introduisent cette dimension de la faute ?
Ouais. Alors, d'abord, je dirais que le langage n'est pas du tout pareil. Parce que le langage de Lévinas, je dirais, il est comme... soulevé par un excès. Il y a un excès chez Lévinas. Il y a des formules qui sont excessives. Je suis otage de l'autre, par exemple. C'est des phrases extrêmement fortes. Donc, la condition d'otage, qu'il a découvert, parce qu'il y a eu des faits divers d'otage, je ne sais pas dans quelles années, est devenue pour lui la parabole de notre situation humaine en général, par exemple. Donc, Lévinas, c'est quelqu'un qui sait voir à travers des choses, par exemple, dans ce petit livre intitulé « De l'existence à l'existant », il y a des pages entières sur la question de l'insomnie. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, un auteur qui parle de l'insomnie. C'est très concret. Et il fait une lecture de l'insomnie métaphysique. On est dans la philosophie, on est plongé dans l'ontologie. L'insomnie, c'est justement l'incapacité que nous avons à nous retirer de l'être. On est pris dans le mâchonnement interminable de l'être, c'est un mâchonnement infini. Et justement, dormir, c'est justement de pouvoir en sortir, pouvoir échapper, pouvoir s'évader, pouvoir sortir de ce mâchonnement interminable. L'insomnie, c'est... Mais en même temps, l'insomnie, c'est aussi la vigilance de la sentinelle. C'est aussi la situation prophétique de la sentinelle. Donc, vous voyez, il y a un jeu sur l'insomnie qui est très, très, très fort. Ça, c'est du Lévinas sous craché. Parce que, oui, d'ailleurs, il y a la Shoah, et c'est pas seulement derrière, c'est au milieu. Il y a toute cette conscience aiguë de la singularité de la tradition juive qui crée cet excès. La faute chez Lévinas, c'est tout simplement ma faute. Elle est totale, elle est entière, c'est cette responsabilité infinie, ça, elle va dans toutes les directions. Donc la faute chez Lévinas, elle a tendance, je dirais, à faire péter toutes les cloisons. Il y a un auteur contemporain, juste après la guerre, qui s'appelle Karl Jaspers, un autre grand philosophe allemand contemporain de Heidegger, qui a écrit un livre sur la culpabilité allemande, dans lequel il faisait exprès de distinguer, et il était très proche de Hannah Arendt, et de distinguer la culpabilité morale, la culpabilité juridique, qui sont deux formes différentes de la culpabilité individuelle. Morale, juridique, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui est juridiquement répréhensible, c'est-à-dire que j'ai transgressé la loi. Moralement, je peux ne pas avoir transgressé la loi, mais si j'ai mis tout mon fric dans les paradis fiscaux, peut-être que moralement, je me sens un tout petit peu gêné. Ou peut-être pas du tout. Hein. Là, c'est une question de conscience morale qui varie. Vous voyez, mais il y a ce qui est légal et ce qui est moral. C'est deux sortes de culpabilité différentes. Et puis, il y a aussi la culpabilité politique et il y a même la culpabilité métaphysique. La culpabilité métaphysique, c'est la culpabilité d'exister. Je dirais la culpabilité de survivre. Les survivants sont coupables parce qu'ils survivent. Et après la guerre, je peux vous dire que c'était quelque chose qui était très très profond et qui touchait beaucoup de gens. Ce sentiment de la culpabilité métaphysique, mais qui pouvait toucher tout le monde. La culpabilité politique, c'est justement la culpabilité allemande. C'est en gros la formule de Georgina Dufoy, responsable mais pas coupable. Je suis politiquement responsable, je me déplace pour prendre une responsabilité, mais je ne suis pas, moi, individuellement coupable, parce que c'est des choses que ça ne dépendait pas de ma conscience, de mes décisions, etc. C'est un grand appareil. Et bien sûr, je suis le fusible, parce que c'est normal. Et c'est important que politiquement, il y ait une responsabilité politique. Mais c'est autre chose. Et donc, avec Lévinas, tout ça s'est écrasé. Toutes ces cloisons, toutes ces distinctions sont un peu écrabouillées. Ricoeur, lui, justement, sa démarche est tout à fait inverse. On part de l'homme coupable. C'est central chez Ricoeur. Dans le jeune Ricoeur, on parle de la culpabilité. Et puis, peu à peu, on va creuser la culpabilité dans deux directions. Si je suis coupable, c'est aussi que je suis vulnérable, que je suis fragile. C'est-à-dire qu'il y a l'homme faillible. Il y a une faillibilité, il y a une fragilité. Les deux auteurs, d'ailleurs, dans les mêmes années à peu près, vont mettre en avant ce thème de la fragilité qui, à l'époque, en philosophie, n'existe pas. Vous pouvez prendre les dictionnaires philosophiques de l'époque, il n'y a pas de fragilité, et même encore aujourd'hui. Mais le thème est apparu, le thème de la fragilité, de la vulnérabilité, à cause des questions écologiques, à cause de plein de questions. Voilà. Donc ça c'est l'orientation de Ricoeur. C'est à cause de la conscience du tragique, le tragique, Œdipe, il est coupable, mais il est lui-même victime. Hein, il est coupable, mais il est vulnérable. Et ça, on touche les questions qu'on trouvait déjà à l'époque d'Augustin chez les pères. C'est cette question justement de la dimension active et la dimension passive du péché, par exemple. Bon, donc c'est des vieux débats entre une conception trop morale du péché et une conception trop tragique et fataliste du péché. Hein, donc le péché originel, ils ont cherché à régler des concepts taillés sur mesure pour être mi-moraux, mi-tragiques. Les Pélagiens, ça donne trop dans ça. Les Augustiniens donnent peut-être un peu trop. Oui, et on a cessé de poursuivre ces débats. Ouais. Ça, c'est chez Ricoeur, c'est très important. Et puis, Ricoeur, ensuite, a développé une autre dimension, qui est peut-être celle que Macron reprend le plus. C'est l'homme capable. S'il est coupable, c'est qu'il est capable. C'est-à-dire qu'il est... C'est qu'on a des pouvoirs. Et donc, ça veut dire qu'on est responsable aussi. Hein. Donc, si je suis j'ai une responsabilité, mais ça veut dire aussi que j'ai une capacité. Et il faut aussi prendre positivement les capacités et pas uniquement négativement comme des culpabilités ou des pouvoirs dans un sens... Avoir des pouvoirs, c'est merveilleux, avoir des pouvoirs. Mais voilà, du coup, on est responsable. Et quelqu'un qui a des grands pouvoirs, c'est quelqu'un qui a de grandes responsabilités. Voilà un petit peu comment, je dirais, il se débrouille diversement dans ce maquis de la question de la faute.
Oui. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, je vais essayer de répondre plus brièvement, parce que si je vous fais chaque fois un cours...
Oui.
Vous avez ?
Charles ?
Je reviens un instant sur la distinction que vous avez établie entre la philosophie et la théologie au début.
Oui.
Vous avez dit, c'est dommage si elle s'exclut et si elle s'ignore de l'autre.
La théologie et la philosophie... Ah mais il y a un micro peut-être, pardon, oui. On pourrait... Pardon. Merci, pardon.
Merci. Voilà, vous avez dit qu'il est dommage que les deux démarches s'ignorent ou s'excluent. Est-ce que vous pourriez dire quel risque alors encourt la philosophie quand elle ignore la théologie, ce qui est le risque, comme on peut bien observer, mais l'inverse aussi peut-être, est-ce que la théologie court des risques si elle ignore la philosophie, mais également... Est-ce qu'il n'y a pas un risque à les confondre toutes les deux ? Ou à effacer la limite entre les deux et faire de la théologie avec les mêmes outils que la philosophie ?
Ouais.
Est-ce que ce n'est pas un risque qui guette aussi très fort aujourd'hui, avec cette ambition de communiquer avec tout le monde, etc.
Voilà ma question. Ouais, c'est une très bonne question, oui. Alors, le risque, moi je dirais d'abord, c'était juste culturellement, la France a pris un grand risque. Il fallait prendre ce risque de la laïcité, de la séparation des Églises et de l'État, mais on répond toujours à des questions en soulevant des nouvelles questions, des nouveaux problèmes. C'est très bien la séparation des Églises et de l'État, mais la séparation aussi des facultés a créé, de fait, en philosophie, je peux vous dire, pour moi c'est très 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 net, tous les grands auteurs, jusqu'à Hegel et même jusqu'à Nietzsche. Nietzsche est un fils de pasteur, il connaît sa Bible, c'est incroyable, comme il connaît bien, quoi. Et les Nietzschéens, vous prenez, comment il s'appelle, le type de camp, là Onfray, Michel Onfray, il ne connaît rien. Il ne connaît pas du tout. Et donc, c'est malheureux. Il prend Nietzsche, mais il prend Nietzsche à la lettre et il ne voit pas toutes les allusions bibliques qu'il y a chez Nietzsche et toute la connaissance, toute la culture qu'il y a derrière. Et je dirais même les hussards de la République, tous les instituteurs républicains de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, ils avaient une culture religieuse et ils avaient une culture même théologique, en fait. Ils connaissaient bien. D'ailleurs, et on ne peut pas lire Kant. Justement, là, je suis en train de t'amener un cours sur Kant à la faculté de théologie à Montpellier. Donc voilà, pour la philosophie, c'est un dégât énorme parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent même plus. Hein, c'est comme en général dans notre culture, on ne peut plus lire interpréter les vitraux, on ne peut plus interpréter une grande partie de la littérature. C'était Northrop Frye, le grand critique d'art littéraire américain, canadien, qui disait que la Bible, c'était le grand code de la littérature. Et que si on ne connaît pas la Bible, il y a une grande partie de la littérature qui s'effondre, parce qu'en fait, c'est plein d'allusions bibliques. Donc, c'est très curieux, parce qu'on continue à garder une orientation qui nous vient de la Renaissance, vers la culture antique, justement, les tragiques, les Grecs, etc. Mais on a rompu avec biblique, parce que biblique, c'est forcément théologique et c'est forcément, du coup, religieux, confessant, etc. Et donc, culturellement, il y a ce manque. Théologiquement, je vois aussi un autre danger, c'est justement que le relatif mépris dans lequel la philosophie a été traitée dans la théologie protestante, pas chez les catholiques. Hein. Les catholiques commencent par faire 3 années de philosophie avant de faire leur théologie. Ça allait lorsque les pasteurs étaient issus, je vais être très 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 brutal, étaient issus de la bourgeoisie. Parce que quelque part, ils baignaient dans cette culture générale, par famille, par milieu, par capillarité, etc. Et actuellement, où d'ailleurs la bourgeoisie n'existe plus parce qu'il n'y a plus de transmission, cette culture elle-même est en train de s'effondrer. Je lis le journal d'André Gide, il connaît le latin par cœur, il lit le texte biblique, il dit qu'il faudra aller regarder dans le grec, etc. Il y a cette culture, même s'il y a des gens aussi problématiques, qui ont un rapport aussi problématique à leur foi qu'André Gide, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus cette transmission, etc., y compris dans... Voilà. Donc ça, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et quand je rencontre, alors c'est très curieux, on a à la faculté de Montpellier en ce moment quelques étudiants en théologie qui viennent du catholicisme et qui viennent d'Afrique. Alors c'est curieux parce que c'est des étudiants africains, il leur manque plein de choses. Mais ceux qui viennent du catholicisme, qui ont commencé par faire des études de théologie chez les catholiques, ils ont commencé par la philosophie, ils ont des bases hyper costauds. Et ils sont capables, dans les cours, d'intervenir. Il y a des choses qu'ils comprennent que les autres ne comprennent pas. Y compris dans la théologie, parce que la théologie n'a cessé de dialoguer avec la philosophie. Je ne dis pas que la philosophie posait des questions et que la théologie apportait des réponses, ça serait un peu bébête, c'est un peu le schéma de Paul Tillich, et c'est un peu plat, hein, ça manque d'asymétrie, ça manque de la discontinuité entre les deux. Mais voilà, d'une certaine manière, je pense que toute la philosophie moderne a été bouleversée par l'arrivée de la Bible. Parce qu'ils avaient une conception de Dieu, une conception grecque, d'un Dieu souverain bien, d'un Dieu très, très pyramidal, très hiérarchique, très aristotélicien. Et la Bible, elle arrive avec un Dieu qui est un Dieu volonté, qui n'est pas juste la raison, le logos, mais qui est la parole. Ça parle, et c'est pas d'accord, et ça se dispute, et Abraham avec Dieu, ça se dispute, c'est un Dieu qui veut tuer tout le monde. Non, arrête, tu ne vas pas tuer tout le monde quand même, etc. Bon, d'accord, etc. Un Dieu qui change d'avis. C'est incroyable. Pour les concepts, et même aujourd'hui, pour Ratzinger, c'est inconcevable, un Dieu qui change d'avis. Tout ça, c'était prévu dès le départ, etc. C'est immuable. Bon. Et donc, non, un Dieu qui change d'avis. C'est ça, le Dieu biblique. C'est un Dieu. Donc, ça bouleverse la philosophie. Et ça, voilà, aujourd'hui, on n'a plus ni côté théologique, ni côté philosophique, on a le moyen de les comprendre. Mais je suis d'accord, tout à fait d'accord, que justement, c'est parce qu'il y a cette altérité que le texte biblique arrive en... Il y a des sources non philosophiques de la philosophie, pour moi. Et il ne faut pas tout ramener à la philosophie, il ne faut pas tout intégrer dans la philosophie. Il faut qu'il reste cette altérité. C'est la raison pour laquelle Ricoeur, au début, il s'intéressait beaucoup aux grands théologiens, et peu à peu, il a complètement arrêté de lire les théologiens, il a lu la Bible. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'altérité d'altérité dans le texte biblique que dans les théologiens qui étaient déjà pour lui trop philosophiques. Oui, madame.
On va attendre. Attendez
le micro. Attendez le micro.
Oui, je peux comprendre dans le sens de la laïcité qui qui empêche finalement l'accès, entre guillemets, à la théologie par la culture classique. Mmh. Mmh. Mais je comprends moins l'inverse. Pourquoi dans les études de théologie, il n'y a pas un enseignement de la philosophie ? Ça réglerait le problème de la bourgeoisie.
Oui, vous avez raison. Mais maintenant, il faudrait rajouter une année ou deux années d'études. Et les années, ça coûte très cher aux étudiants, aux églises. Voilà, c'est ça le problème. Parce que des études de théologie, c'est des études gigantesques. Il faut faire des études de lettres bibliques, de littérature biblique. Donc il faut apprendre le grec, il faut apprendre l'hébreu, il faut connaître ça. Il faut connaître même si on peut connaître un petit peu toutes les langues du Proche-Orient ancien, pour comprendre le texte, pour le lire. Ça, c'est Calvin qui l'avait institué. Nos pasteurs, il faut qu'ils connaissent tous le grec et l'hébreu. C'est quand même une décision très fondamentale. Et le peuple, si je peux dire, tout le monde doit apprendre à lire. Donc c'est une décision absolument fondamentale. Parce que justement, il faut canaliser. Parce que la foi, la religion, il y a des énergies dedans. C'est ça que ne comprennent pas nos contemporains. Et là-dedans, des énergies à tout faire péter. Et donc, nous, on ne le voit pas parce que maintenant, il y a des endroits entiers où l'énergie s'est retirée. On a le sentiment qu'il y a des grandes canalisations qui sont vides, qui ne servent à rien. Ces canalisations, ça s'appelle des dogmes, ça s'appelle l'herméneutique, ça s'appelle la théologie, ça s'appelle les institutions. Alors, il y avait besoin d'institutions, de dogmes, de théologie, parce qu'il y avait d'énergie, qu'il fallait canaliser cette énergie. Parce que c'est une énergie, sinon elle fait tout péter. C'est le problème. J'ai la Bible en main, avec ma Bible. Si je vois ça, et je peux dire non, mais le roi a tort. Et donc je peux être immédiatement en révolte contre le roi. C'est la révolte des paysans, la révolte... il y a eu des révoltes, il y a eu des guerres de religion, c'est pas pour rien. Donc canaliser cette énergie, c'est absolument fondamental. On a du mal à le comprendre. Alors, vous avez raison, on pourrait rajouter ça, mais vous voyez, donc il y a les textes bibliques, il faut interpréter, il y a des études d'histoire, il faut comprendre dans quelle tradition on s'inscrit, il y a des études justement d'élaboration du discours actuel, du discours contemporain en prise, donc c'est ce qu'on appelle la systématique, la dogmatique, en débat avec la philosophie, etc. Là, il y a une place pour la philosophie, il y a l'éthique, et puis il y a toute la théologie pratique, et on nous dit tout le temps... Ah, mais les pasteurs, ils savent pas ça, ils savent pas ça, ils savent pas ça, ils savent pas ça, il leur manque encore plein de choses. Donc, on n'aurait jamais fini de faire des études avant d'être pasteur. C'est ça un peu le problème. Mais, d'une certaine manière, il faudrait qu'il y ait peut-être une école préparatoire, remettre une sorte d'école préparatoire, une école de propédeutique, qui serait valable d'ailleurs pour tout le monde, comme une sorte d'école de culture générale, où il faudrait qu'on ait la force, qu'on ait les moyens, et que l'État voit l'urgence de mettre des moyens. Dans une école qui serait une école plus partagée, peut-être, qu'on pourrait partager avec d'autres confessions, et même aussi avec, je pense, des municipalités qui verraient un intérêt à ce qu'il y ait vraiment une école de culture générale qui nous réapprenne ces codes que nous savons que nous sommes en train de perdre complètement. Voilà. Donc les codes de l'imbrication dans lesquels... Parce que c'est des codes qui ont été imbriqués depuis... Même avant Augustin, depuis même Paul, on ne comprend pas... Paul est en débat aussi avec les stoïciens, et réciproquement, il y a beaucoup d'imbrications. Et donc, si on a juste le code philosophique d'un côté et le code théologique de l'autre, ça ne correspond pas. Et je dis bien qu'il y a deux sources complètement différentes, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, c'est des mélanges. La réalité est un mélange. C'est ce mélange, c'est cette culture qui nous manque. Voilà, c'est une réponse très pragmatique, hélas, mais...
Oui. Ah, attendez, on va attendre le micro.
Je vous remercie parce que la façon dont vous avez présenté et comparé Lévinas et...
Parlez plus près
du micro. La façon dont vous avez présenté et comparé Lévinas et Ricoeur, c'est assez impressionnant compte tenu de la complexité de la pensée de Lévinas. Enfin, pas de la complexité, mais de la difficulté à la comprendre. Et justement, il y a un petit point, je ne peux pas dire que je vous critique parce que c'est vraiment prétentieux, mais il me semble quand même que vous avez un petit peu, je dirais, bubérisé Lévinas.
Peut-être, oui.
Parce que, et je vous pose la question parce que moi j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, sa pensée. Et vous l'avez un peu réduit, me semble-t-il, à un je-tu, une relation duel, alors que Ricoeur aurait tout de suite la pluralité, ce qui me semble... pas tout à fait juste, et je voudrais vous demander comment vous pensez, justement, ou vous expliquez le fait que chez Lévinas, c'est un « je vous », et c'est pas simplement un « vous » d'admiration ou d'asymétrie. Mais je crois qu'on peut dire aussi que c'est un vous de pluralité. Oui, et Lévinas joue très bien, enfin, il sait ce qu'il dit. Et il dit d'ailleurs que derrière l'autre, il y a tous les autres. C'est ça. Et le mot tiers, c'est lui qui l'emploie, je crois, dans Totalité infinie. Oui. Donc comment se fait cette articulation? Ça, c'est très difficile à penser et à comprendre. Mm-hmm. Mais il me semble que déjà chez Lévinas, il y a le tiers qui est toujours déjà là derrière. Oui. Mm-hmm. Et l'articulation qu'il fait entre la dualité de l'éthique et la pluralité du politique est quand même dans son œuvre.
Absolument.
Ouais. Et à ce propos, je voulais vous demander, parce que c'est lié à ma seconde question, lorsque vous parlez, moi je ne savais pas qu'on pouvait lier à la rupture protestante ce souci du monde et cet insouci de soi. C'est très intéressant. Mais je me demande si ce souci du monde n'est pas, peut-être à travers le protestantisme, je ne sais pas, mais n'est pas... et c'est le lien que je fais avec le pluralisme de la pensée éthique de Lévinas, n'est pas une tradition juive. C'est-à-dire que le monde est créé par Dieu, mais c'est aux hommes de le rédimer, de l'arranger, de le soigner. Et est-ce qu'on pourrait penser... Et d'ailleurs, il y a un livre d'Anna Arendt qui s'appelle « Le souci du monde ». Mmh. Est-ce qu'on peut dire... Parce que là, je connais moins bien, mais est-ce qu'on peut dire que ce souci d'affirmer tout de suite la pluralité et tout de suite le souci du monde est aussi dans la tradition juive chez Lévinas, dans sa pensée éthique, qui est tout de suite articulée à la pluralité, et chez Anna Arendt. Je ne sais pas si c'est très clair.
Si, merci. C'est très intéressant. Et vous avez absolument raison, hein, c'est un point extrêmement fondamental chez Lévinas, hein, ce vous et donc l'autre. Je l'ai dit un peu trop rapidement, ça déploie tous les registres de l'altérité. C'est vrai que moi, je suis, comme je suis historiquement beaucoup plus proche de Ricoeur, j'ai été très sensible tout le temps à cette dimension d'asymétrie, ce rappel à l'asymétrie. Par exemple, j'avais travaillé beaucoup sur le thème du pardon. C'est un des premiers thèmes que j'ai travaillé en philosophie morale. Et justement, j'avais été très, très frappé par justement cette insistance... Enfin, tous les textes de Lévinas où Lévinas parle du pardon, ils sont d'ailleurs extrêmement dans les lectures talmudiques ou dans etc. sont extrêmement intéressants par justement par exemple le fait qu'on peut pas se pardonner à soi-même, hein, le fait que c'est des choses qui arrivent, mais la manière dont il l'argumente, c'est pas parce que justement il faut que l'autre, mais c'est que justement c'est ce qui est le plus difficile parce que ça demande un rapport à Dieu. Seul Dieu, c'est par le rapport à Dieu que je peux me voir moi-même autrement. Ça, c'est l'interprétation qu'en donne Anna Arendt. C'est vrai que moi, j'ai majoré peut-être la dimension d'asymétrie par rapport à la dimension de réciprocité de Jules Ricoeur. C'est un petit peu caricatural et vous avez raison de souligner ça. Cette articulation aux politiques chez Lévinas, moi, je la sens plutôt comme une immense sensibilité et comme quelque chose qui est affirmé. J'aurais du mal à en faire la genèse philosophique ou phénoménologique, d'une certaine manière. Je ne suis pas assez connaisseur ou je n'ai pas assez présent à l'esprit tous les textes de Lévinas. Moi, je reviens toujours un petit peu au même texte qui m'impressionne le plus. Mais c'est une question que je retiens. Je n'ai pas la réponse à cette question. Sur la question du monde, en revanche, je pense que là-dessus, pour moi, c'est vraiment Anna Arendt qui en sorte qui déploie ça complètement. Et je suis pas sûr que justement, je pense que Lévinas avait un rapport à la question du monde plus marqué par des débats avec Rosenzweig et avec Heidegger, et donc peut-être plus moins franchement positif que Lévinas, que Anna Arendt. Comme dans le christianisme d'ailleurs, en ce sens-là, Lévinas, et dans le christianisme aussi, il y a ce rapport très ambigu au monde. Le monde, c'est en même temps le monde. Dans certains textes bibliques, c'est vraiment le domaine de Satan, quoi. C'est vraiment le... Et puis dans d'autres textes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il y a une ambiguïté du mot monde. Et on a tendance à oublier. Certains, dans le protestantisme, oublient la dimension négative que le monde peut avoir, et d'autres oublient la dimension positive que le monde peut avoir dans l'ensemble des écritures. Mais chez Anna Arendt, c'est vraiment profondément positif. Et je dirais que là, le conflit est presque plutôt entre une philosophie de la vie et une philosophie du monde. Et je ne sais pas où placer la tradition juive par rapport à ça. Je ne sais pas comment fait Anna Arendt par rapport à ça, elle-même, par rapport à son propre rapport à son judaïsme. Est-ce qu'on peut dire que le judaïsme, justement, par cette conception de la genèse, de la création d'un monde qui est lui-même pluriel, et dans lequel, dit Anna Arendt, le monde, c'est l'intervalle qui existe entre des humains. Donc c'est une conception très politique du monde. Hein. Le monde est une cité. Même le monde, enfin, le monde est une cité. Et c'est parce qu'il y a plusieurs points de vue sur le monde. Mais ça vient de Husserl. Au sens, il y a de l'altérité parce qu'il y a de la temporalité et ça va ensemble. Il y a monde parce qu'il y a de la temporalité et parce qu'il y a de la pluralité. S'il n'y avait pas de pluralité, il n'y aurait pas de monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un écart de point de vue entre nos points de vue sur la salle où dans laquelle nous sommes ne sont pas les mêmes. Nous avons des points de vue différents. Et il y a un espace entre nous et le monde est constitué par l'intervalle qu'il y a entre nos points de vue. Or, dit Anna Arendt, nous avons le pouvoir de nous retirer du monde. Ce pouvoir de nous retirer, soit de nous retirer dans notre vie privée, de nous retirer dans nos musiques, de nous retirer même quand je lis, je me retire du monde d'une certaine manière aussi. Mais nous faisons un usage peut-être excessif, dit Anna Arendt, de cette faculté que nous avons de nous retirer, éventuellement de nous retirer dans un monastère, de nous retirer. Il y a mille manières de nous retirer du monde. Et elle dit, ce pouvoir que nous avons de nous retirer, nous l'exerçons trop, et c'est au détriment du monde. Et le monde, dit-elle, elle a l'air de craindre que le monde s'effondre, s'affaisse, parce qu'il y a trop de gens qui se retirent du monde commun, qui se retirent de l'espace du monde commun. Vous voyez, donc, une conception très, absolument merveilleuse de la fragilité du monde, du monde commun, de l'espace commun, du monde politique, de la cité, du monde comme cité. Et ça, on peut dire que c'est très biblique, d'une certaine manière. Et ça va un petit peu dans le sens, peut-être, de cette pluralité dont on parlait, et qui est en effet tout à fait présente aussi chez Lévinas. Mais il y a une autre philosophie, qui est une philosophie de la vie, et dans le texte biblique aussi, du prolongement de la généalogie, de la poursuite de la vie, et je dirais du caractère sacré de la vie qui se transmet, etc. Et on fait tout pour la vie, et l'important c'est la vie, et l'important c'est le rejeton, c'est la postérité, c'est la fécondité. Et il y a entre ces deux philosophies, on pourrait dire, un écart très important. Il faut faire attention à ne pas le majorer. Hein. Mais Anna Arendt, elle se méfie beaucoup de ce triomphe de la vie. Elle a le sentiment qu'aujourd'hui, la philosophie qui a triomphé par tous les bouts, c'est une philosophie de la vie. Une philosophie de la vie au détriment du monde. Comme si la vie était capable, un jour, pour elle, c'est une conception, je prolonge un petit peu, parce qu'en fait, elle est contente. Elle écrit ce livre, Condition de l'homme moderne, au moment où l'homme met le pied sur la Lune, enfin, avec Gagarine, sort de son orbite. Et elle dit, en fait, nous ne savons pas encore, mais notre projet, c'est de quitter le monde. Et donc, comme si la vie pouvait quitter le monde. Et donc, c'est une conception gnostique pour elle, une conception dans laquelle le monde est entièrement mauvais, le monde est foutu, et il faut que la vie s'organise, on va laisser, tant pis, il y a une grande partie de la vie qui va être sacrifiée, mais il y a des vivants, porteurs de la postérité, on voit ça dans les films. Hein, vous voyez Interstellar, c'est ça, comment ça s'appelle ? C'est ça ? Interstellar, c'est ça ! Le monde est foutu, de toute façon il devient irrespirable, mais il y a toutes les graines de la vie vont être projetées sur une autre planète, dans un autre monde, ailleurs, etc. Alors peut-être que c'est pour refaire un nouveau monde, peut-être, mais vous voyez, il y a cette dimension-là. Bon. Donc là, c'est des débats, à mon avis, très intéressants, qui traversent, à mon avis, toutes les traditions.
Une autre question ?
Oui, une question.
J'ai peut-être mal compris, mais quand vous avez dit qu'aujourd'hui on revenait...
Plus près du micro peut-être, pardon.
Qu'on revenait à la réforme en disant qu'on cherchait plus le salut pour les autres et moins pour soi. Luther, qui est quand même le père de la réforme, me semble-t-il, et c'est un homme tourmenté qui a cherché d'abord le salut pour lui-même parce qu'il comprenait pas. Il cherchait le salut pour être sauvé de lui-même,
vous
d'abord
avez raison.
Avant les autres.
Vous avez raison. Vous avez raison que historiquement, c'est ça qui est arrivé à Luther. Il était angoissé de son salut, mais angoissé à en mourir. Hein, donc, je disais, cette angoisse, elle est elle est fondamentale. Elle est à l'époque, on ne le comprend plus tellement aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a les époques ont des angoisses différentes, l'angoisse de la mort, l'angoisse de la damnation, de la culpabilité et du salut, l'angoisse de l'absurde. Bon, il y a des angoisses différentes. Mais l'angoisse de Luther, c'est vraiment l'angoisse du salut et l'angoisse de la damnation. Parce qu'on est, on peut, c'est plus l'angoisse de la mort parce qu'on est ressuscité, on va ressusciter, mais si on ressuscite pour aller dans l'enfer pour un temps infini, c'est l'horreur, simplement. Et puis l'âme, que devient mon âme, que suis-je, qui suis-je, bon. Vous avez raison, c'est ça sa question. Mais ce qu'il trouve, c'est l'insouciance. Ce qu'il trouve, c'est être délivré de cette anxiété. Vous voyez, et donc, il dit, et c'est une phrase de Luther, il dit, je l'ai cité dans une conférence récemment, mais je n'ai pas le texte sous les yeux. En gros, c'est un égoïsme. La question du salut est une question égoïste. Il le dit comme ça, égoïste, tout simplement, brutalement. Donc, ça dit quelque chose, il faut l'entendre. Hein, c'est vrai que Luther a vécu cette question, mais il a vécu la grâce comme non pas la réponse à la question. Ça y est, j'ai trouvé mon salut. J'ai trouvé mon salut. Mais la délivrance de la question. Il est délivré de cette question. C'est pas mon problème. C'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est compliqué. Vous avez raison que c'est ça sa question, mais la réponse, il est délivré de cette question par la prédication, par la grâce, par la découverte de la grâce et de la confiance, de la foi, comme j'abandonne cette question à Dieu. Je m'en occupe pas. Je ne pense pas que ce soit directement ça. C'est vrai que c'est universel. La grâce, elle est annoncée à tout le monde. Ça ne veut pas dire... À l'époque, il y a tout un plein de débats pour savoir qui c'est qui les élus, etc., etc. Et c'est là qu'arrive la doctrine. Ils reprennent les vieilles catégories théologiques du Moyen-Âge, de la prédestination, par exemple. Hein, tout le débat de Calvin... Et Calvin, par exemple, il va dire, justement, c'est pas le problème de l'universalité de la grâce. C'est juste que c'est entre les mains de Dieu. C'est pas notre affaire. La prédestination, c'est que c'est à l'affaire de Dieu. Donc nous, on est délivrés de cette question-là. Donc pour lui, la prédestination, c'est une libération de cette question-là. Et donc il faut faire comme si. Il faut rencontrer autrui comme s'il était sauvé. Mais c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas à moi d'en juger. Il faut pas se jeter follement, dit-il, dans le labyrinthe infini du jugement de Dieu. C'est pas notre affaire. Le sacerdoce universel, c'est autre chose. C'est par rapport à la prêtrise, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous capables d'administrer les sacrements. Nous sommes tous interprètes des signes, parce que les sacrements, c'est des signes. Et les signes, ce ne sont que des signes. On va dire, c'est des symboles. Il y a des débats encore entre les francs-maçons sur qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est des signes, comme le texte biblique est un signe. C'est-à-dire en fait. Ça parle d'autre chose, quelque chose qui n'est pas dedans. Ce n'est pas un objet sacré, et donc il n'y a pas besoin de prêtre sacré pour le faire. C'est ouvert à tous.
Bien, je vous propose de conclure ici cette rencontre et de découvrir, si vous le souhaitez, donc, les ouvrages qui sont présentés à la sortie de la salle, notamment celui-ci hein, d'Olivier Abel, Paul Ricoeur, La promesse et la règle, où on retrouve justement cette perspective de Ricoeur avec cette volonté à la fois d'éthique et de morale, la fragilité de l'être humain, donc la singularité de l'individu dans l'espace, mais qui appelle à faire le bien dans l'espace politique et social. Vous retrouverez des ouvrages de Ricoeur à la sortie aussi de la salle. Pour ceux qui le souhaitent, le programme de la librairie 2018 vient de sortir. Hein. Il est consacré cette année aux protestants parlent. Et il se déroulera donc ici à Alès, à Paris, à Cholet, à Aix, à Metz aussi. Vous y retrouverez donc toutes ces conférences présentées. Paradoxalement, on commencera avec une conférence ici qui sera donnée par Neil Blue, l'historien des anabaptistes. Et on commencera donc paradoxalement avec une conférence intitulée ainsi « La parole muselée ». Donc ça ne sera pas cette fois « Les protestants parlent », mais le mutisme de certains protestants, ce qu'on a appelé il y a une trentaine d'années maintenant, mais les historiens n'emploient plus ce terme, ceux de la réforme radicale. Mais on parlera donc de ces anabaptistes hein, qui ont été largement persécutés par les réformateurs, on va dire, plus classiques, Luther, Calvin, Zwingli, qui n'ont pas mâché leurs mots et parfois aussi qui n'ont pas lésiné sur les moyens les plus violents pour mater cette réforme très ultra minoritaire dans l'Europe du XVIe siècle, mais qui a malgré tout perduré et qui n'a pas été aussi sans apport, notamment dans les mouvements revivalistes du XIXe siècle. Voilà, donc on abordera cette thématique de la parole muselée. Ce sera la première conférence, ce sera le 12 janvier à la médiathèque d'Alès à 18h30. N'hésitez pas donc à vous munir de ce programme, à le prendre, à le faire connaître autour de vous. Vous pourrez retrouver les conférences aussi sur le site de la librairie. Je vous propose de remercier encore une fois le professeur Olivier Abel. Merci.